RFI, grand reportage, Charlotte Hydrac.
Bonjour, il y a moins de 5 ans, le mouvement bolivarien et sa philosophie politique du socialisme du 21e siècle paraissaient tout puissants en Amérique latine. Hugo Chavez dominait la scène politique, accompagné de Lula puis Dilma Rousseff au Brésil, Néstor Kirchner puis sa femme en Argentine, Evo Morales en Bolivie ou encore Rafael Correa en Équateur. Aujourd'hui, le panorama a bien changé et notamment en Équateur où après 10 ans de règne sans partage, le président Rafael Correa ne peut se représenter pour les élections générales du 19 février prochain. Après 2 ans de vache maigre suite à la chute des prix du pétrole, la révolution qui se présente comme citoyenne n'est plus aussi fringante, même si elle a encore des ressources. Grand reportage signé Eric Sanson.
Samedi dernier à Barcelone, Rafael Correa est en tournée européenne. Il en profite pour rencontrer des centaines de ses compatriotes pour y présenter ce que l'on appelle ici la sabatina, le compte-rendu des activités de la semaine passée. Le ton est toujours combatif, même si le contenu est moins triomphant que ces dernières années.
Ce sont des temps difficiles qui arrivent, mais aussi des temps intéressants. J'espère que l'Amérique latine sortira de cette léthargie où nous sommes tombés ces dernières années pour croire aux chants de sirènes de nos élites qui parlent en espagnol mais pensent en anglais, qui nous vendent le rêve américain, le traité transpacifique. Aujourd'hui, ces élites viennent de prendre une bonne gifle. On voit bien que quand le libre-échange n'intéresse plus, eh bien il est tout simplement abandonné par certains pays, par les pouvoirs hégémoniques. J'espère que notre population va remettre les pieds sur terre pour consolider la grande patrie, pour construire une Amérique latine unie. Para construir esa América Latina unida.
Le nom de Donald Trump n'est pas prononcé, mais l'élection du nouveau président américain flotte dans l'ambiance. Ses attaques contre le Mexique et son retrait du traité commercial transpacifique ont déjà changé le panorama en moins de 2 semaines. Quant à l'édifice bolivarien en Amérique latine, il a déjà perdu de nombreuses pierres et de tailles. Dilma Rousseff n'est plus au pouvoir au Brésil, ainsi que les péronistes en Argentine. Le Venezuela s'enfonce dans une crise politique, économique et sociale qui empire jour après jour. La présidente chilienne se débat dans l'impopularité. En Équateur, l'ex-vice-président Lénine Moreno fait campagne pour offrir un sursis de 4 ans au modèle qui s'autodéfinit comme la révolution citoyenne, la révolution ciudadana.
Nous devons continuer le processus de révolution citoyenne. Nous ne pouvons pas freiner. Pourquoi ? Parce qu'il y a encore un futur à construire. Il faut consolider la révolution car beaucoup de choses n'ont pas été faites. Et c'est le regret terrible du président qui me dit parfois « Lénine, on aurait pu faire plus ». Et moi je lui dis « Non Raphaël, on est parti de zéro et on a fait 30% du chemin. Il nous reste 70%, mais on va le faire. On va le faire avec vous, camarades ».
Une tâche qui ne sera pas facile, selon le directeur de l'Institut de sondage Market, Blasco Peñarera.
Le correísmo vit son pire moment. Le président de la République va terminer son mandat avec entre 25 et 30% d'opinions favorables. C'est grosso modo le niveau du vote dur des partisans de la révolution citoyenne. Le candidat officiel, Lénine Moreno, a commencé à un niveau beaucoup plus élevé. Il a été très apprécié lorsqu'il était vice-président. Mais aujourd'hui, il est tombé au même niveau que le président Correa.
Cela dit, tous les instituts de sondage ne sont pas d'accord. Market est celui qui place le mouvement officiel Alianza País, Alliance Pays, au plus bas. D'autres lui donnent entre 30 et 40% des intentions de vote. La nuance est de taille et pourrait donner à Lénine Moreno une victoire dès le premier tour. En Équateur, la loi électorale est telle que si un candidat arrive à 40% des suffrages sans compter le vote blanc ou nul, il l'emportera dès le premier tour s'il a plus de 10% d'avance sur le candidat arrivé en deuxième position. Une hypothèse plausible si l'on en juge par la dispersion des candidats d'opposition. Blasco Peñarera.
Une opposition extrêmement difficile.
Il sera extrêmement difficile pour l'opposition d'arriver à se mettre d'accord parce qu'on voit dès maintenant des différences profondes entre les principaux opposants. Le fait de vouloir la chute du régime n'a pas été suffisant pour les unir, car sinon ils se seraient désistés et on aurait eu moins de candidats. La dispersion de l'opposition favorise le candidat officiel, qui cherche à l'emporter au premier tour. J'espère que les blessures de la campagne électorale pourront cicatriser, que l'opposition comprenne que son rôle est fondamental et qu'il lui faut dépasser les petits calculs purement électoraux.
De la vision électorale.
Un désir qui risque fort de n'être qu'un vœu pieux. Le 19 février prochain, les Équatoriens devront départager 8 candidats présidentiels. Derrière Lénine Moreno, 3 candidats se battent pour la deuxième place, éventuellement synonyme de deuxième tour. Un ancien banquier, Guillermo Lasso, la représentante du Parti social chrétien de droite, Cynthia Viteri, et le général Paco Moncayo, social-démocrate, ex-maire de Quito, ayant dirigé l'armée équatorienne il y a 20 ans lors de la victoire militaire du CENEPA contre le Pérou. Ce triple duel ne se fait pas à fleurer moucheté. Exemple, cette passe d'armes entre Cynthia Viteri et Guillermo Lasso lors d'un débat télévisé la semaine dernière.
Alors que vous proposez créer des emplois à candidat Lasso, vous avez ces 3 dernières années mis au chômage des centaines de personnes travaillant dans la banque de Guayaquil, près de 10% du personnel.
Et la réponse tranquille du berger à la bergère.
Écoutez, Cynthia, je ne vais pas vous attaquer ni me défendre de vos accusations. Vous n'êtes pas l'ennemi de l'Équateur. L'ennemi de ce pays, ce sont tous les facteurs qui génèrent de la pauvreté, toutes ces politiques qui ne permettent pas aux pères de famille, aux mères de famille de trouver un emploi. De surcroît, il ne faut pas confondre les décisions prises par une compagnie privée et les politiques publiques.
Ce soir-là, Lénine Moreno comptait les coups à distance. Il était le seul candidat à avoir refusé de participer à ce débat télévisé. Bref moment d'émotion dans une campagne qui en manque singulièrement, selon le journaliste Diego Kendo.
C'est une campagne électorale qui n'a jamais pu soulever l'enthousiasme de la population. C'est une campagne froide avec des candidats respectables, mais qui ne soulève pas d'émotion.
Pour l'emporter, Lénine Moreno a des atouts. Reclus dans un fauteuil roulant après avoir été blessé par un délinquant d'une balle dans la colonne vertébrale, Moreno a refait sa vie. Il est devenu motivateur et a beaucoup écrit sur les vertus du rire. Durant ses 4 ans comme vice-président, Lénine Moreno a été apprécié pour son travail en faveur des plus démunis. Il le rappelle dans tous ses meetings électoraux. Le candidat officiel a promis de relancer la mission Manuela Espejo, un effort pour aider les personnes handicapées et leurs familles, plusieurs centaines de milliers de personnes en Équateur.
Je l'ai promis, la mission va continuer. La mission Manuela Espero s'occupera comme avant des personnes handicapées, mais pas seulement. La mission va s'occuper aussi des personnes âgées, des femmes abandonnées, des femmes au foyer, des jeunes, des enfants, des femmes maltraitées. La mission continue.
Lénine Moreno reçoit également l'aide plus que régulière du président Rafael Correa. Cet orateur redoutable et redouté ne manque pas une occasion de s'en prendre au parti social chrétien de Cynthia Viteri ou aux banquiers comme Guillermo Lasso, ses cibles favorites avec la presse.
Les banques nous ont ruinés en 1999. Tout ce que le néolibéralisme a pu exporter, c'était des êtres humains. Et au bout de 2 ou 3 ans, ces mêmes banques battaient des records de bénéfices qu'elles envoyaient à l'extérieur, y compris dans des paradis fiscaux. Alors que nos migrants se sont sacrifiés, ils ont risqué leur vie, se sont séparés de leur famille, de leurs enfants, de leurs parents pour aller travailler en Espagne ou ailleurs. Ils n'ont jamais oublié leur pays, eux. Ils ont travaillé durement pour envoyer de l'argent en Équateur et soutenir leur famille. C'est leur argent qui a permis à l'économie équatorienne de supporter la crise.
Le petit producteur de l'OPEP, avec quelques 500 000 barils de brut extraits quotidiennement, l'Équateur ces dernières années a vu ses recettes augmenter vertigineusement. Cela lui a permis de mener à bien une politique ambitieuse de travaux publics. Problème, la manne s'est tarie selon l'avocat et analyste économique Napoléon Santamaría.
En
termes de croissance, nous venons de vivre 6 trimestres négatifs et la perspective 2017 est négative. On a camouflé l'ampleur de la crise via l'endettement. Nous n'avons pas souffert comme d'autres pays à cause d'un endettement vorace. L'an dernier, le pays s'est endetté à hauteur de 14% du PIB pour un total de 14,6 milliards de dollars.
Autre problème pour le futur président, quel qu'il soit, le régime actuel a également hypothéqué les recettes de demain en négociant la vente anticipée de la principale ressource du pays, le pétrole. Les candidats d'opposition se sont donc engouffrés dans la brèche pour attaquer Lénine Moreno du côté du portefeuille. Cynthia Viteri.
Notre thèse permanente a été zéro impôt. Pas depuis peu, mais depuis de nombreuses années. Je présenterai une seule réforme fiscale pendant mes 4 ans de gouvernement pour baisser ou éliminer des impôts comme le paiement anticipé de l'impôt sur le revenu ou celui sur la sortie des devises, sans oublier celui qui augmente de 10 à 75% sur la plus-value immobilière. Et je ne vais pas seulement le supprimer, je rendrai à la population les impôts exigés indûment par ce gouvernement jusqu'au mois de mai.
Autre angle d'attaque de Cynthia Viteri, la défense de la dollarisation qui depuis l'an 2000 est plébiscitée par la population.
Il ne faut pas suivre les rêves absurdes du candidat officiel qui souhaite retrouver une monnaie propre à l'Équateur. Le dollar n'est pas le problème mais la solution. La dollarisation doit à tout prix être protégée.
Une position partagée par Guillermo Lasso qui s'en prend à un État qu'il estime obèse, inefficace et omniprésent. Il l'expliquait il y a quelques semaines à des étudiants universitaires à Quito.
C'est vous qui allez décider ce que l'Équateur va produire, ce que le pays va exporter. Aujourd'hui, le gouvernement nous parle d'un changement de matrice de la production comme s'ils étaient des génies devant des disjoncteurs. J'éteins les opportunités d'un secteur et j'allume celles d'un autre. Non, les choses ne se passent pas comme cela. Elles naissent de l'initiative individuelle. Dans mon gouvernement, tout le monde aura sa chance. C'est ce que j'appelle diversifier l'économie en liberté. C'est vous qui décidez. Comment créer de la confiance? C'est simple, en respectant ses promesses. Si au lieu de baisser les impôts, tu les augmentes, tu ne crées pas de confiance. Si tu manipules la justice, tu ne crées pas de confiance. Il faut être sérieux, respecter son programme. La confiance, c'est comme de l'air frais qui peu à peu circule dans le pays et se transforme en crédibilité.
Outre la crise économique, la candidature de Lénine Moreno est également menacée par des cas de corruption, notamment dans le secteur pétrolier, qui touche le gouvernement dont il se veut l'héritier et dont il doit assumer l'héritage, selon l'analyste politique d'opposition, Blasco Peña Herrera.
Ce que je vois, c'est que Lénine Moreno ne peut absolument pas se démarquer du gouvernement. D'abord, il a été le premier vice-président de Corée. À cette époque, il y avait de l'argent et il est parti avec une très bonne image. Ensuite, il n'avait plus de fonction officielle, mais il a quand même été financé en Suisse par le gouvernement. Aujourd'hui, son candidat à la vice-présidence était le deuxième vice-président de Corée, un homme que beaucoup estiment lié à de nombreux scandales de corruption. Dans ces conditions, comment voulez-vous que Lénine Moreno prenne ses distances?
En époque de crise économique, les accusations de corruption sont généralement moins acceptées par la population. Cela n'a pas toujours été le cas, regrette le journaliste Diego Kendo, qui cherche à interroger Moreno à ce sujet.
Je crois qu'il manque à la campagne de Lénine Moreno plus de proximité et surtout plus de frontalité par rapport aux grands problèmes du pays. Je l'invite depuis des semaines, il a donné des interviews à tous les médias, sauf Radio Vision et le programme Bonne Journée. Je crois que la corruption devrait être un thème central de la campagne, mais les Équatoriens, et cela me peine de le dire, ont souvent la tendance de dire « oui, il y a la corruption, mais ils ont construit des œuvres publiques », comme si c'était une excuse suffisante pour ne rien faire.
Quel que soit finalement son impact réel dans l'opinion publique, l'angle corruption est abondamment utilisé par les candidats d'opposition pour essayer de ternir l'image d'une révolution qui se présente toujours comme un modèle de vertu. Guillermo Lasso.
Qu'a fait le gouvernement de Corée ces 10 dernières années? Décréter de nombreux secteurs de l'économie en état d'urgence pour distribuer la plus grande quantité possible de contrats publics sans appel d'offres ni obligation de présenter des études préalables de faisabilité des organismes de contrôle. Il faut de nouveau verrouiller le coffre des ressources du peuple équatorien.
La multiplication de ces contrats sans appel d'offres a été également critiquée par le fiscal Gallo Chiriboga, pourtant très proche du président coréen, dont il a été l'avocat.
J'ai été président de Petroéquador et pendant mon administration, pas un seul contrat n'a été signé sous le régime de l'état d'urgence. Je pense que les contrats signés sans appel d'offres, pour gagner du temps, se justifient dans quelques rares occasions comme les tremblements de terre. Quand l'extraordinaire devient normal, devient la règle, je ne crois pas que ce soit correct.
Pero lo especial se volvió común y eso me parece que no es adecuado.
Un autre scandale a émergé ces derniers temps, celui du supposé paiement de 30 millions d'euros de pots de vin par la compagnie brésilienne Odebrecht à des fonctionnaires équatoriens entre 2007 et 2016. Une accusation rejetée par le président coréen qui a rappelé que la compagnie brésilienne a été expulsée d'Équateur au début de son premier mandat. À l'époque, des dégâts avaient été détectés dans une centrale hydroélectrique construite par Odebrecht. Raphaël Correa.
Nous n'avons pas cédé. Odebrecht a seulement pu revenir en Équateur quand elle a réparé la centrale hydroélectrique de San Francisco pour 60 millions de dollars et nous a payé des dommages-intérêts jusqu'au dernier centime. Ce n'est qu'alors qu'ils ont pu revenir en Équateur. Ils ont participé à des concours, en ont gagné 5 ou 6 qui sont aujourd'hui terminés. Les contrats ont été révisés, personne n'a protesté, pas même les compagnies qui sont arrivées deuxièmes. Quand a surgi le scandale Odebrecht, les supposés pots de vin ont été payés dans une douzaine de pays, du Mozambique au Mexique. Et coïncidence, partout la justice américaine révise la période 2001-2016, sauf en Équateur, où la période révisée va de 2007 à 2016. Notre gouvernement, on est trop vieux pour croire aux coïncidences.
Au-delà du chaos de Brecht, Raphaël Correa doit également faire face à de nouveaux scandales dans le secteur pétrolier. Là encore, le président équatorien se défend en affirmant que sa confiance a été trahie et que la situation était bien pire avant.
La corruption que nous avons dû affronter, c'est autre chose. C'était des pots de vin déposés sur des comptes secrets dans des paradis fiscaux. Comment voulez-vous contrôler cela? Il n'avait pas grand-chose jusqu'à l'arrivée du cas de la raffinerie, mise en lumière par la publication des Panama Papers. Le gouvernement a commencé à enquêter et a découvert un réseau de fonctionnaires de carrière corrompus depuis 30 ans. Il n'y a qu'un membre important du gouvernement dans ce réseau, un ancien ministre du pétrole, un traître.
Avec plusieurs anciens hauts fonctionnaires en fuite, apparemment au Pérou et en Espagne, l'auréole de la révolution citoyenne n'est plus ce qu'elle était. Une raison de plus pour le président coréen de mettre en pratique le dicton qui affirme que la meilleure défense est une bonne attaque.
Les plus grands corrompus de l'histoire du pays n'ont pas été les fonctionnaires publics, mais les banquiers qui ont ruiné le pays en 1999. Le gouvernement n'a rien fait pour protéger la population et tout pour protéger les banquiers. Ils ont gelé nos comptes bancaires, la plus grande saisie de biens privés de l'histoire du pays. Et tout cela fait par un gouvernement néolibéral. Enfin, néolibéral tant que ça l'arrangeait.
En attendant, la multiplication de ces affaires de corruption fait quand même désordre dans le camp officiel. À moins de 3 semaines des élections, l'avocat Napoléon Santamaria regrette que les grands sujets, comme le modèle économique à suivre dans le futur, ne fassent pas vraiment l'objet de débats approfondis.
Le pire qui pourrait nous arriver serait de repartir de zéro, de changer de modèle. On ne peut pas tout refaire ou on ne terminera jamais, mais il faut diminuer le poids excessif de l'État.
Une discussion d'autant plus nécessaire que le ou la future chef de l'État ne devrait pas avoir à sa disposition la majorité législative absolue dont se bénéficie aujourd'hui le mouvement officiel. Même si Lénine Moreno l'emporte le 19 février prochain, le temps de l'hégémonie sera probablement terminé. En Équateur, la révolution citoyenne va devoir apprendre à partager. Grand reportage en Équateur, Eric Sanson, réalisation Ludivine Amado.
Mémoire d'un continent.